Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour cette troisième semaine de rentrée. C'est déjà notre troisième vidéo de rentrée. Ça y est, on a perdu tout notre bronzage. C'est
ouais,
l'enfer.
J'en avais pas beaucoup. J'évite le soleil.
Voilà. Et il s'est passé un événement quand même fort important pour nous tous. C'est que Charles nous a passé un autre anniversaire.
82 balais.
Et voilà. Et on a reçu des très gentils petits cadeaux, dont des magnifiques petits cigares en chocolat de la part de Jean-Marie. Mmh. Et papa était très content. Hein, t'étais très content. Mmh. Tu vas pouvoir te régaler.
C'est en chocolat, c'est des vrais cigares.
Non, mais c'est des cigares en chocolat, papa. T'avais pas compris que c'est des cigares en chocolat? C'est un chocolatier.
C'est un chocolatier?
Oui, c'était. Moi, j'ai eu des caramels. Léonard, il a eu des petits beurres, des touillous. Et toi, c'est des cigares en chocolat.
Ah, ben, j'aurais du mal à le fumer, mais.
Ah, bah non, je te confirme. Bien sûr que c'est des cigares en chocolat. Bah, sinon, on les aurait pas mis.
Vas-y, continue.
Tu ne l'aurais pas mis dans le plastique. Bon. Autre chose que je voulais dire, ça y est, j'ai oublié parce que tu fais. Attends, je vais te l'ouvrir parce que c'est pas possible. Il a deux mains gauches, cet enfant. Je vais vous dire, Charles, vous lui donnez trois boules, il en perd une et il casse les deux autres. Ouais. Tu vois que c'est un cigare en chocolat?
En effet.
Ah, ces enfants. L'enfant sauvage. Bref, donc tout ça s'est bien passé. Je crois que vous avez bien suivi, étant donné les questions, ce qui se passait dans le nouveau livre et pour les mondes de demain. Aujourd'hui, donc, on va faire une émission de questions, ce dont on vous avait parlé avant. Et avant ça, j'ai une première question qui n'est pas une question d'internaute, mais une question qui a été posée hier, puisque c'est en différé cette émission. Par Sapir, qui dit chez Tocsin de Clémence Oudiakova, et avant que tu ne répondes, j'aurai un truc à dire entre temps. Je cite : Je suis très étonnée que Charles Gave oublie qu'il existe toute une série de quasi-banques liées aux banques officielles qui empruntent auprès de ces institutions pour acheter des titres que celles-ci ne peuvent pas acquérir directement. On parlait à l'époque effectivement de la dette française et du fait que la note ait été dégradée. Oui. Et lui disait, en fait, il demeure toujours une appétence sur les marchés. Du reste, même les taux ont baissé. Alors, je voudrais juste dire que c'est fort dommage. On avait convié à la sortie de son livre Jacques Sapir, je crois que c'était en mars dernier. Hein.
Oui, oui.
Et puis, on l'a attendu, on était là avec Jérémy, et puis apparemment, il y avait eu un problème. C'était Pierre-Yves Rougeron qui avait organisé. Et puis, finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait eu un souci. Enfin, voilà. Donc, ces questions auraient pu être résolues face à face et on aurait pu faire un débat sympathique, mais voilà. Donc, écoute, qu'est-ce que tu as à répondre à cela?
Bah, écoutez,
enfin, tu es au courant que ces banques existent. Tu ne te réveilles pas pour savoir comment la société est faite.
Comment la société est faite, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des réglementations. Que quand j'étais il y a très très longtemps à la Banque de Suez, il y avait une nouvelle réglementation qui était sortie. Je me suis sur le contrôle d'échange, je crois. Et qu'ils ont réuni les gens les plus intelligents de la banque et ils m'avaient inclus dedans, je ne sais toujours pas pourquoi, et pour essayer de savoir comment tourner la réglementation dès le premier jour.
Oui.
Donc, il y a des façons de tourner la réglementation.
Contourner.
De contourner. Mais ça ne veut pas dire que la réglementation n'est pas là. Donc, si vous êtes une compagnie d'assurance lambda, vous n'avez pas, par exemple, mettons les fonds de pension hollandais, qui n'est pas une compagnie d'assurance, mais enfin. Il y a toute une série de réglementations en Hollande qui dit que vous ne pouvez pas acheter des choses en dessous de AA. Ce qui ne veut pas dire que la demande disparaît, mais ça veut dire que ceux qui ont cette obligation ne peuvent pas avoir d'obligation de AA.
En fait, ce que c'est de vous dire, Charles, c'est qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Il n'y a que les institutions politique et réussi à mettre en place des systèmes entre eux pour que ça se voit moins, ce qui est le cas, et que des banques rachètent directement. On le sait bien, de toute façon, c'est pareil. En général, la Banque de France, on lui donne un ordre, et ensuite, elle dit à la Société Générale, à BNP Paribas, et ainsi de suite, de racheter les titres. On sait très bien comment la saucisse est faite, mais ce n'est pas la question. La question est quelle est la vraie demande dans le public, dans les gens qui ont des pantalons à deux jambes. Que les pantalons à une jambe continuent à être des pantalons à une jambe, on est tout à fait au courant. C'est les pantalons à deux jambes,
qui nous intéressent.
La vraie société,
ce n'est
pas les trading sardines qui nous intéressent, c'est les eating sardines.
Eating sardines. Et ce qui semble aussi exister, c'est qu'aujourd'hui, le seul acheteur, en quelque sorte, de la dette française, c'est la Banque de France. C'est-à-dire que, quand vous regardez un peu le marché, il y a quasiment plus de marché sur la dette française. Alors là, ce qui se passe, c'est que, vous savez, c'est une vieille astuce, la banque centrale n'a pas le droit d'acheter des obligations, paraît-il, mais elle les fait acheter par BNP.
Voilà.
Et ensuite, qui les revend directement à la Banque de France dans la seconde qui suit. C'est
incroyable finesse.
Voilà. Donc,
colossale,
si vous voulez, tout
astuce.
Ça, c'est la réalité, c'est que la note de la France a été dégradée. Et que la question importante, j'ai fait d'ailleurs ce que j'avais essayé de montrer dans un graphique lundi, là, si vous pouvez aller sur mon. C'est vous regardez. Ceux qui ont acheté la dette française à la place de la dette allemande, depuis maintenant 5 ans, ils sont tous en perte. C'est-à-dire que la hausse de la prime de risque sur la France a compensé et au-delà la différence des taux d'intérêt qui était favorable à la France. Donc, moi je suis un vieux gérant, je perds de l'argent par rapport à ce que j'aurais pu acheter, c'est-à-dire la dette allemande. Et j'arrive au moment où je me pose la question, est-ce que je vais garder cette dette ou est-ce que je vais la vendre? Si je la vends, je prends une petite perte. Si je l'achète ou si je la garde, et s'il y a un gros pet en France, je vais perdre mon boulot. C'est-à-dire, si maintenant il se passe un phénomène que la dette française est vraiment attaquée, etc., tous les gars qui ne l'auront pas vendu et qui sont double A, etc., c'est une faute professionnelle. Et ils seront virés. Donc, voilà, ce que je dis, c'est double A, il y a des gens qui ne peuvent pas l'acheter, qui fassent faire des opérations de portage par la banque d'à côté, c'est possible, mais tu te fais virer.
Voilà, donc ça, c'était la réponse à la question de M. Sapir, et j'espère que vous aurez compris, qu'on embrasse. Et on embrasse Clémence. Et voilà, alors, je vais commencer les séances de petites questions que j'ai prises ça et là, un petit peu à l'Université de l'Épargne aussi, et un petit peu sur notre page Internet, YouTube, de questions. Alors, Mathieu te demande, bonjour, j'ai une question sur la retraite. J'ai écouté un podcast sur la chaîne Finari. Pierre Sabatier, économiste, prospectiviste et spécialiste de la question des retraites était l'invité de la chaîne. Il répondait à la question de savoir si un système par capitalisation serait la solution en France. Il répondait que non, car le problème de nos retraites venait du déséquilibre démographique et qu'un système par capitalisation serait également soumis à ce déséquilibre. Cela ferait même une baisse de prix. Et donc, attends, je coupe un peu parce que qu'est-ce que tu penses de ce genre de questions? Est-ce que tu penses qu'il faut introduire un seuil de capitalisation? Est-ce que tu penses que c'est trop tard, c'est foutu et qu'il faut tout remettre à
d'abord,
plat?
D'abord, la première des choses, c'est la démographie. Dans un système par capitalisation, rien ne t'interdit d'investir ton épargne dans un pays qui a une démographie convenable. Donc l'avantage de la capitalisation, c'est que tu n'es pas dépendant de la démographie de ton pays. Donc, M. Sabatier semble penser que les systèmes de retraite en France doivent avoir 100% d'actifs français, ce qui est une erreur conceptuelle considérable. Par exemple, le système suédois, que je connais bien, puisqu'on a plein de clients en Suède et que je les connais depuis toujours, le système, ils doivent avoir 10% de leurs actions en Suède, et pourtant c'est un excellent marché. Et le reste, ils doivent les avoir aux États-Unis et partout.
Mais
quoi,
c'est toujours l'idée d'un fonds de pension, c'est de mettre l'argent là où la rentabilité du capital investi est la plus forte. Bon, pour ça, ils font appel à des gens dont c'est le métier, de regarder au travers le monde où est la meilleure rentabilité du capital investi. Et bien évidemment, je connais les Français...
Ajusté pour le risque.
Les Français vont dire il faut flécher l'épargne, il faut qu'on garde cette épargne en France. Mais ma foi, si notre rentabilité sur place ici pour faire des boutons de culotte est de 0,2, vous pensez bien qu'on serait bien mieux dans un pays qui va vous donner une rentabilité de 20%.
C'est exactement ça. Donc l'argument de la démographique est un argument non recevable, sauf si on empêche les Français, dans leur fonds de pension, d'acheter des actions à l'extérieur. Donc, ça me paraît un raisonnement un petit peu limité.
Voilà. Et on aimerait, nous, en tant que libéraux, effectivement, que les,
que gens fassent ce qu'ils veulent de leur fric. Et le mieux, ce serait encore de permettre littéralement l'établissement de fonds de pension, si j'ose dire, individuels, de façon à ce que chacun puisse gérer son épargne en fonction de ce qu'il pense lui, et non pas de ce que pense le gouvernement. Donc c'est bien pour ça qu'on a créé l'unité de l'épargne, c'est pour vous aider à faire votre propre fonds de pension.
Voilà, avec des copains. Alors tu as Roberto qui te pose la question suivante. Bonjour la communauté et bonne rentrée à tous. Je suis en plus convaincu que l'Italie pourrait être une belle solution d'investissement dans le cas d'un éclatement de la zone euro ou de sortie de l'Italie pour ceux qui habitent pas trop loin. Ma question est la suivante. Faut-il y investir avant ou après une éventuelle sortie de l'euro? Avant, c'est prendre le risque d'être pressé par une bureaucratie bruxelloise pour le temps indéfini et bénéficier de prix attractifs malgré tout. Après, c'est faire le pari d'une dévaluation pour gagner encore plus, mais les opportunités risquent d'être plus rares.
Alors, c'est une question qui est très intéressante. L'Italie va mieux. C'est tout à fait exact. Et vous prenez par exemple, prenons l'exemple de la France et de l'Italie, le gérant qui a acheté de la dette italienne a touché plus que celui qui
a touché de la dette française
ou de la dette allemande. Et en plus, comme la prime de risque a baissé sur l'Italie depuis 3-4 ans, a gagné aussi une espèce de gain en capital. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il a touché plus en rendement. Et il est probable, comme il y a toujours une différence positive avec l'Allemagne, d'à peu près 80 points, que ça va continuer. Donc, l'avantage de la dette italienne, c'est que vous vous dites, si on ne sort pas de l'euro, je gagne 80 points de base de plus, et peut-être un peu plus parce que j'aurais touché plus. Et si on sort de l'euro, l'Italie, avec un excédent de ses comptes courants qui est assez considérable et un surplus primaire de son budget, c'est-à-dire qu'il paye, le budget est dans bon état, avoir de la dette italienne, c'est beaucoup mieux que d'avoir de la dette française. Ça fait un petit moment qu'on le dit, il n'y a rien de nouveau. Mais ce qui m'embête en Italie, si vous voulez acheter des actions, c'est que il n'y a pas grand-chose à acheter. Il y a les banques,
oui.
Il y a une ou deux compagnies d'assurance, mais si vous voulez, autrefois il y avait Fiat, mais enfin ça n'existe plus, c'est Stellantis. Et donc, l'avantage de l'Italie, c'est cet immense tissu de sociétés industrielles de taille moyenne qu'il y a dans le nord de l'Italie. L'inconvénient, c'est que elles ne sont pas cotées.
Voilà.
Donc la difficulté, c'est comment tu mets en pratique, j'achète des actions italiennes, mais qu'est-ce que tu fais? Où tu les trouves? C'est ça le vrai difficulté. En France, l'avantage, contrairement à notre dette est dégueulasse, mais vous avez 10 grandes multinationales qui sont incroyablement bien gérées et où vous pouvez vous coller. Donc, si...
Ils n'ont pas d'air liquide italien.
Ils n'ont pas d'air liquide italien, ils n'ont pas de Schneider, ils n'ont pas de... Donc, si quelqu'un veut rester en Europe, la solution, c'est peut-être d'avoir... Allez, je dis un petit peu de dette italienne, elle est comme ça. Mmh. Et puis, les grandes sociétés multinationales françaises, ça lui fait un portefeuille qui n'est pas trop mal.
D'accord, intéressant. Voilà. Alors, tu as Isaac qui te pose la question suivante. Merci, bonjour pour votre fabuleux travail. Vous nous avez expliqué à maintes reprises que la valeur de l'or ne montait pas, que son prix lui est monté parce que la valeur de la monnaie de mesure baisse.
Baisse, oui.
Pourquoi donc la remontée récente depuis Trump de l'euro n'a pas freiné la montée du métal jaune?
Ben, ce qui s'est passé, c'est que si vous avez acheté de l'or en euros, ben vous gagnez beaucoup moins que si vous l'avez acheté en dollars.
Ben oui.
Donc on le sait, puisqu'il y en a dans les portefeuilles en euros. Donc l'euro, et je crois que l'or est monté de 20 et quelques pourcents, et que l'euro étant monté de 14%, ben, l'or en euros, il est monté que de 6, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est pas... C'est décevant, c'est par rapport... C'est comme ça, c'est. Mais je vais vous donner un autre exemple qui m'intéresse, c'est que vous dites l'or, c'est un actif à duration très très longue, tu vois,
oui,
parce que
ça
va durer toujours. C'est même l'idée. Et tu achètes donc, tu regardes en Chine, ils ont une obligation à 30 ans en renminbi. En renminbi, oui. Et depuis 2013 ou 2014, tu regardes, qu'est-ce qui a fait mieux, l'obligation à 30 ans chinoise ou l'or? Eh bien, ça fait pareil. C'est-à-dire que par rapport à une obligation de bonne qualité qui était la Chine, ben l'or, il n'est pas monté. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même intéressant. Ça veut dire que ce qui s'est passé, c'est que nos obligations ont baissé, mais pas les obligations chinoises qu'on a recommandées pendant très longtemps. Donc, voilà, c'est l'or, c'est un peu le juge de paix du système. Ça te dit, est-ce que la monnaie est gérée contre le rentier?
Oui.
Si elle est gérée contre le rentier, c'est-à-dire les épargnants, à ce moment-là, il faut avoir de l'or. Mais si elle n'est pas gérée contre le rentier, ben, si j'ose dire, pour un Chinois, avoir des obligations longues ou avoir de l'or, ça a été kiff-kiff. Mm-hmm. C'est rigolo, quoi.
Oui, bah c'est une bonne façon d'évaluer aussi les obligations d'un pays, parce que leur rentabilité face à l'or, et je pense que...
Et même les actions.
Et même les actions, oui, bien sûr. Mais... je pense que l'action, comme il y a un côté dividende réinvesti et un aspect spéculatif que je ne donne pas à l'or.
Dans les obligations, il n'y a pas de possibilité de croissance. Tu gardes ton.
Ce que j'attribue à l'or aussi, c'est-à-dire moi, je mettrais instinctivement une obligation dans le même sorte de référentiel que l'or, c'est-à-dire j'attends.
Réserve
de valeur, j'attends passivement, je suis serein avec ça et je spile un petit peu, mais avec des actions.
Mais voilà.
Je ne spile pas avec des obligations ou de l'or, c'est juste instinctivement.
Et ce qui se passe, alors c'est un autre concept, mais dont on a souvent parlé aussi, mais qui est un peu plus compliqué, c'est le concept d'antifragilité. Oui. C'est-à-dire que quand les marchés des actions se pètent la gueule vraiment, l'or monte. C'est-à-dire que l'antifragilité, c'est quand même la volatilité d'un actif, la variation du prix tous les jours, se met à monter, en principe, il baisse. C'est les actions. Mais l'or, quand la volatilité du prix de l'or se met à s'agiter. Il monte.
Ouais.
Donc ça veut dire que quand la volatilité arrive dans les marchés des actions, ce qu'on n'a pas eu depuis un certain temps, en principe, l'or monte et les actions baissent. Tu vois, et autrefois, le 10 ans américain, qui était l'actif antifragile, faisait la même chose.
Que l'or.
Et puis maintenant, il baisse. Donc ça veut dire que, alors que le 10 ans chinois monte. Donc ça veut dire que l'antifragilité est passée de les États-Unis à la Chine.
C'est vachement intéressant, ça.
Ouais.
Bon. Alors, une question un peu plus structurelle sur la France. Bonjour l'idéal, avez-vous déjà réfléchi à partir de quand serait-il légitime que le peuple puisse se ressaisir de la violence légitime, quitte à dégrader les institutions symboles de tyrannie ? Comme au Népal et comme les Hauts-d'Agans, hein, tout cramé pour repartir sur des basses scènes.
Oui.
Parce qu'après l'élection présidentielle de 2027, il n'y a toujours pas de Frexit en vue, ça commence à faire long. Donc là, on n'est plus dans une question institutionnelle. Hein, je te sors de
alors
la finance. On en parlait, que dimanche, avec les enfants, sur réfléchir à un ordre inique. Et quand est-ce qu'on s'oppose ?
C'est une question à laquelle Thomas d'Aquin a longuement réfléchi. À quel moment il est légitime de tuer un tyran ? Et donc, ça pose la question de l'opposition entre la légalité et la légitimité. Ces deux notions importantes de science politique. La légalité, c'est vous respectez la Constitution, donc il n'y a rien à dire. Circuler, il n'y a rien à voir. La légitimité, c'est à partir du moment où une grande majorité de gens sont pas contents, se révoltent. Normalement, un homme comme De Gaulle, par exemple, dès qu'il a eu l'impression qu'il avait perdu la légitimité, il est parti. Mais ensuite... Chirac a montré, ou même Mitterrand d'ailleurs, Mitterrand et Chirac ont montré que ce qui les intéressait, c'est de rester au pouvoir, et même si le peuple les avait désavoués, ils restaient tranquillement accrochés. Et là, la réponse, j'hésite à le dire, mais viendra peut-être d'Angleterre, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'énorme manifestation qui s'est passée à Londres, où on me dit qu'il y avait 100 000 personnes, il devait y en avoir 2 millions, ou je ne sais pas combien. C'était gigantesque. Donc le peuple anglais, qui a l'impression que maintenant son gouvernement travaille contre ses intérêts...
Qui a l'impression, a raison. Qu'il a été prouvé qu'il n'avait pas mis en place le Brexit. Oui. C'est-à-dire, on dit l'Angleterre, le Brexit, mais ils ont freiné dans les institutions. Ça a été amené jusque devant le roi, cette histoire. Oui. Et il a été prouvé qu'il y a eu collusion frauduleuse, véritablement, entre les institutions pour freiner en pratique, mollement, la mise en place du Brexit.
L'Angleterre est toujours dans la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui est quand même extraordinaire. Ce qui les empêche, du coup, de virer les immigrants. comme il devrait le faire, parce que la Cour européenne des droits de l'homme considère que virer des immigrants, c'est pas bien. Mais je veux dire qu'ils en ont
rien donc, à foutre. Et donc, ils sont obligés de les loger à grands frais dans des hôtels qui coûtent cher, c'est ça, à l'origine qui a mis le feu aux poudres.
Et tout leur système social saute, parce que c'est donné
à la NHS, c'est...
Donc, grosso modo, ça veut dire, oui, il y a un moment où le peuple a le droit... presque le devoir de se révolter, et logiquement ça se passe par des manifestations qui se passent dans la rue en bon ordre. Donc à un moment l'Angleterre va se poser la question. La raison pour laquelle Starmer est au pouvoir, c'est le système électoral anglais. Je m'explique, c'est qu'il y avait trois partis qui se sont présentés, donc le parti de Nigel Farage, les conservateurs et le parti travailliste. Et c'est un système uninominal majoritaire à un tour. C'est-à-dire que si vous avez le Parti travailliste, il a fait à peu près 35% des voix, ou 40%, il était à peu près en tête partout, donc il a eu 420 députés. Mais il n'a fait que 40% des voix, parce que les deux autres partis conservateurs, ils faisaient 60%. Et donc, ça donne à ce parti une majorité absolument écrasante au Parlement, mais qui ne correspond absolument pas à la réalité du pays. Donc là, on est dans un cas... Le système anglais uninominal majoritaire à un tour fonctionne si vous avez seulement deux partis, mais sinon, il arrive à des résultats très bizarres, quoi. Et donc, on est à un résultat très bizarre. Donc, la question que doit se poser le roi, c'est que je crois qu'il y a une très très vieille loi qui lui permet de dissoudre le Parlement tout seul. Évidemment, il va avoir du mal à la mettre en... Mais aujourd'hui, c'est de la responsabilité du roi Charles, quoi. C'est, on va voir ce que ça va donner. Les travaillistes vont probablement virer Starmer, j'imagine, et essayer de mettre un...
Qui est une gigantesque couille molle.
Non, surtout qui est un gros menteur et un gros traître.
On l'a vu, il a complètement... C'est lui qui est à l'origine, a étouffé cette histoire de grooming gang dont vous avez forcément entendu
l'histoire
parler.
L'histoire de viol collectif.
De viol collectif de très jeunes filles par des gangs de Pakistanais. Et c'était connu. Moi, je le lisais à l'époque dans le Daily Mail il y a une dizaine d'années. Et c'était sorti et ça a été volontairement étouffé.
Par lui. Par lui, en justice. Qui était le plus haut magistrat.
Voilà.
Et c'était quand même très embêtant, parce que quand on comprend pourquoi ça a été fait, c'est que dans ces circonscriptions, il y avait toujours un élu travailliste. Donc c'était mettre en cause les Pakistanais, c'était mettre en cause la représentation.
Il y a même eu des bordereaux, enfin des choses qui disaient on veut conserver une cohésion sociale, et donc ils demandaient aux magistrats.
Et ils ont fait passer des lois aussi maintenant en Angleterre qui sont tout à fait extraordinaires, qui sont attentatoires au droit commun. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des instructions au juge en disant « Vous devez être particulièrement gentil avec ceux qui sont pas des Anglais de souche, en quelque sorte, parce qu'ils ne comprennent pas bien nos us et nos coutumes. »
C'est toujours pareil.
Et par contre, les autres, vous devez être particulièrement rude. Et ils viennent de faire passer une loi, ce qui est extraordinaire en Angleterre, pour empêcher la liberté de parole.
Oui,
et donc ils mettent des gens en taule parce qu'ils ont dit des méchancetés sur le YouTube ou j'en sais rien.
Donc, vous avez dit quelque chose de méchant sur X, sachez que vous pouvez aller en taule.
Allez en taule. Et donc l'Angleterre file un très mauvais coton et est en train et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce que j'appelle les globalistes, la liberté d'expression, c'est pas ce qui les motive énormément, quoi. Ils veulent l'empêcher.
Les hommes des bateaux et la liberté d'expression, ça n'a jamais...
Ça n'avait jamais été leur truc. Et on le voit très bien avec l'assassinat du jeune...
Charlie Kirk,
ce qui est aussi... vous avez vu toute une partie de la gauche qui se réjouissait à haute. Vous avez des emails qui sont effrayants. Réjouir d'avoir un type qui avait comme seul objectif de favoriser le dialogue... De réjouir de le voir tuer, c'est il faut arriver à un niveau de cynisme.
Et cet absolu d'Inde, pardon, mais de Nathalie Loiseau, qui était au Parlement européen, a dit, avec l'autre, cet homme était un raciste notoire, il était contre l'avortement, ainsi de suite. Il était hors de question de faire une minute de silence pour quelqu'un qui avait ses valeurs. Mais ce que cette dinde ne comprend pas, c'est qu'encore une fois, quand un opposant politique qui est en pleine fonction, c'est-à-dire il était dans un campus, et ça, il n'a jamais fait que ça, il parlait avec des mots. Nulle part, vous n'avez le droit, le pouvoir ou le devoir de tuer quelqu'un pour ses mots. Si ses mots vous gênent,
dit qu'elle est raciste.
Vous avez deux choix, partir ou parler, mais en aucun cas lui tirer dessus. Et ce que demandait le Parlement européen pour moi, ce n'était pas de consacrer l'homme, c'était de consacrer l'atteinte qui était faite à la liberté d'expression. Et ça, nous devons tous, à chaque fois, nous lever. Moi, je vais vous dire demain, quelqu'un tuerait Jean-Luc Mélenchon d'une balle dans la tête, je serai la première à être dans la rue pour protester, bien que tout ce qu'ils disent me révolte. Mais on ne tue pas les gens pour les mots qu'ils disent. C'est simplement ça, c'est dans une démocratie raison, normale.
Mais en plus, l'histoire de racisme, je vais vous raconter ça parce que ça montre à quel point ces gens-là sont de mauvaise foi. C'est que... Donc, Charlie Kirk était tout à fait contre ce qu'il s'appelle la discrimination positive, d'ailleurs qui a été condamnée par la Cour suprême aux États-Unis il y a quelques années. C'est-à-dire que les grandes universités devaient avoir un quota de noirs, etc. Et ce que disait Charlie Kirk, il prenait l'exemple en disant, prenez un pilote d'avion. S'il n'y a pas de discrimination positive, si le type devient pilote au mérite, tout le monde, que ce pilote soit noir ou blanc, vous vous en foutez. Vous prenez l'avion, vous n'y pensez pas. Mais s'il y a une discrimination positive et que vous avez que 10% des pilotes sont arrivés là, non pas parce qu'ils étaient compétents, mais parce qu'ils étaient noirs, à ce moment-là, est-ce que vous mettez votre famille dans l'avion? Et ils ont enlevé tout le début du raisonnement. Ils ont dit si, ils n'ont pas parlé de la discrimination positive, si votre pilote est noir, à ce moment-là, vous n'y allez pas. Et ils disent, voyez, c'est un gros raciste. Mais vous voyez, la mauvaise foi de ces gens, ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'en effet, est-ce que vous vous confierez à un chirurgien qui est passé par la discrimination positive?
Mais tu sais, c'était exactement pareil, la même chose qui m'est arrivée sur Twitter, et je m'étais retrouvée devant le procureur de la République et convoquée par la brigade qui est dédiée aux violences en ligne. Parce qu'il y avait eu un article pendant l'été, il y a 6-7 ans, qui disait « Il y a trop de blancs dans l'intelligence artificielle ».
Oui.
Et j'avais répondu « Mais enfin, vous ne pouvez pas tourner un article comme ça. À ce compte-là, vous pourriez dire qu'il y a trop de noirs dans la course à pied de 100 mètres ». Et quand oui. Ils avaient monté leur truc, c'était juste pour dire, vous ne pouvez pas... Aujourd'hui, bien sûr, il y a trop de blancs dans l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que les universités sont... D'abord, premièrement...
Il y a un paquet d'Indiens.
Il y a un paquet d'Indiens, c'est pas vrai. Mais tu vois, comme c'est pas des Noirs, on dit pas.
Oui.
Tu vois, c'est en gros ce qu'ils veulent dire, il n'y a pas assez de Noirs dans l'intelligence artificielle. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'universités en Afrique et que du coup, il n'y a pas assez de mathématiciens et que du coup, il n'y a pas assez de... Tu vois, c'est des chaînes de causalité. Et ça ne veut pas dire que les Noirs ne seraient pas compétents pour faire des mathématiques. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, dans le développement des pays, et je pense que j'apprends rien à personne, les grandes universités africaines, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de mathématiciens noirs. Mais,
mais en même temps, c'est de dire aussi, il est vrai que en finale des Jeux Olympiques, sur le 100 mètres, il n'y a pas de blanc, quoi. Et c'est ce que de dire l'argument qu'utilisait... Charlie Kerr qui disait, écoutez, dans le basket professionnel aux États-Unis, on devrait faire des quotas de blancs et des quotas de jaunes, etc., parce que ils sont bien payés, ces gars-là. Donc, si vous voulez, dès le moment où vous faites une individualisation de par la couleur de la peau, vous introduisez...
Ou du sexe, parce que il y a pareil, si tu veux, de dire il y aurait des quotas pour des femmes de ci ou de ça. Moi, je suis d'accord avec cette idée de dire, écoute, une femme, de la même façon, doit s'imposer par une compétence et il n'y a pas à dire...
Il y a des capacités qu'elle ne peut pas avoir. Par exemple, pour le programme d'entraînement des Marines américains, qui sont les troupes d'élite américaines, il n'y a pas une femme qui peut passer.
Parce oui, que parce c'est qu'on complètement impossible. On n'a pas la même force du corps.
On verra quand il faudra porter quelque chose de lourd. Donc, il y a des réalités biologiques, il y a des réalités physiques, il y a tout ça. Donc, la meilleure façon de traiter ces problèmes, c'est de ne pas les traiter. C'est-à-dire que si le programme nécessaire pour être un soldat d'élite requiert d'être un homme, c'est bien triste, ma pauvre dame, mais si par hasard il y a une femme qui arrive, tant mieux. Mais... C'est pas du gouvernement de savoir, il faut pas qu'il y ait... J'ai vu, il y avait un truc qui m'a fait pleurer aussi, c'est que le Parti communiste français a été condamné parce qu'il avait mis trop de femmes. Mais ça dépasse l'entendement, quoi. Et tu dois mettre des candidats qui sont compétents, mais qu'est-ce que t'en as à foutre que ce soit la moitié des femmes ?
Et non, mais je suis d'accord. Et surtout, c'est des citoyens. Donc, des citoyens se présentent à un poste, ils sont élus, ils sont pas élus.
En principe,
on s'en fout que ça soit des femmes ou des hommes.
Et la beauté de notre société, c'est qu'elle est, la loi est indifférente au sexe, à la couleur de la peau, etc. Elle s'applique également à tout le monde. Mais s'il y a des gens qui commencent à faire des différences, la société, à ce moment-là, se casse en petits morceaux.
Oui, bien sûr, et on arrive à un communautarisme.
On arrive à des communautarismes.
Après, on va revendiquer, j'ai un tiers de sang Cheyenne, j'ai un quart de
C'est comme la femme aux États-Unis qui est rentrée au Sénat en disant qu'elle avait des origines indiennes, ce qui n'était pas vrai du tout. Elle n'avait pas une goutte de sang indien, mais ça lui a permis de rentrer à Harvard et ensuite d'être élue. Mais ça permet donc à des incompétents... Enfin, oui, ça permet à des incompétents d'arriver à des postes où ils ne devraient jamais arriver, quoi. Alors, pour ceux que ça intéresse, je ne saurais trop recommander de lire les livres de Sowell, Thomas Sowell, qui est un grand économiste. Il aurait dû avoir le prix Nobel 10 fois, mais qu'il n'a pas eu, parce qu'il est noir. Il n'a pas eu le prix Nobel parce qu'il était noir, mais parce qu'il disait du mal... De toutes ces tentatives
oui, mais bien
de...
sûr. Mais on a présenté un livre
de Sowell
en mai, où il expliquait véritablement pourquoi ces discriminations positives avaient fait même du mal aux États-Unis, à la structure de la famille.
Et aux Noirs.
Et aux Noirs, bien
ça
sûr.
Ça avait détruit la famille noire. Donc tout ça, si vous voulez, c'est encore une fois, méfiez-vous des recommandations faites par les politiques qui sont fondées sur l'envie. Si vous avez un homme politique, j'ai vu Mélenchon par exemple qui disait la semaine dernière, si Monsieur Arnault a gagné beaucoup d'argent, c'est qu'il l'a pris aux autres. C'est faux. Monsieur Arnault a créé de la valeur, et il l'a pris à personne. C'est-à-dire Monsieur Mélenchon n'a jamais créé de valeur de toute sa vie. Mais ça n'a pas empêché d'être bien payé et d'avoir un appartement à Paris et d'avoir une fortune personnelle qui est loin d'être négligeable. Donc, l'idée qu'un chef d'entreprise, c'est exactement comme de dire que Picasso crée de la valeur. Il y a la vieille blague, c'était que Picasso était invité à il avait été dans un restaurant un jour et le type lui avait demandé de, il s'était donné un papier, il avait fait un truc sur les, il avait dessiné pour des copains un truc sur le, et le gars le est-ce que vous pourriez le signer? Et Picasso a répondu non, jeune homme, parce que si je le signais, je pourrais acheter le restaurant avec. Il avait créé de la valeur.
Ouais.
Il n'avait pas piqué à quelqu'un. Monsieur Mélenchon ne comprend rien, mais je crois que c'est bien pire que ça. Monsieur Mélenchon comprend, mais pense que les autres ne comprennent pas, donc il faut faire appel à leur haine et à leur envie. Donc la gauche porte en elle la racine du péché essentiel qui est l'envie. L'envie, c'est le péché du diable, et c'est le seul péché qui n'est pas de satisfaction objective. Les 6 autres grands péchés, tu peux bouffer trop, tu peux courir les filles comme un fou, mais l'envie, tu restes toujours haineux. Mmh. Et pour Merci. Moi, c'est Monsieur Mélenchon, c'est la haine.
C'est la haine. Alors, tu as Christophe Picard qui a 2 petites questions pour toi concernant la France. Nous sommes en train d'aider par des subventions diverses mais très importantes le groupe ArcelorMittal à restructurer les usines du groupe en France. Se moquant de la parole donnée, le PDG semble vouloir transférer les compétences en Inde et abandonner les sites. Quel devrait être le rôle de l'État pour vous ? Aider et sauver l'ex-fleuron mondial de l'acier pour maintenir nos souverainetés ou laisser faire le libre jeu du marché sans aucune aide publique ?
C'est une bonne question. L'Angleterre a décidé, a plus d'industrie sidérurgique. Ils ont tout fermé. Et ça pose en effet une question essentielle, c'est que, par exemple, on a décidé de se réarmer. Tu sais, il faut refaire, etc. Mais comment tu fais des tanks si tu n'as pas d'industrie sidérurgique?
Même après, si on doit remettre toute la chaîne, après...
C'est ça, mais c'est un vrai, vrai problème. Et à ça, je répondrai, moi, que si on avait géré convenablement les relations internationales depuis que le mur de Berlin est tombé, on n'aurait pas besoin de se réarmer.
Ouais, c'est sûr.
C'est-à-dire que ils font n'importe quoi. Ils veulent absolument nous convaincre qu'on va avoir une guerre avec la Russie. Donc il faut faire des tanks, il faut faire je sais pas quoi. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le conflit russo-ukrainien, les tanks ils jouent aucun rôle. C'est les drones qui jouent le rôle.
Oui, oui.
Donc ce qu'il faut, c'est ne pas sauver ArcelorMittal, qui crève depuis 50 ans. Ça fait 50 ans que j'entends ça, ça s'appelait Usineur autrefois. Hein. Ça fait 50 ans que ça crève. Et peut-être lancer une opération de dans le cadre de l'armée de fabrication de drones. Ce serait peut-être beaucoup plus intelligent. Puisque ce dont on a besoin, c'est des drones, c'est pas des tanks.
Et avec plus de valeur ajoutée.
Avec plus de valeur ajoutée.
En plus, on a plein d'ingénieurs, hein.
Bah, tu sais qu'on dominait les drones il y a 10 ou 15 ans, ouais, et puis on s'est laissé complètement dépasser parce qu'on a trouvé que c'était pas intéressant. Faut se méfier des militaires, parce que les militaires, ils vont toujours vouloir un tank Leclerc qui vaut, je sais pas combien, 500 millions d'euros, et qui est un très bon tank. Mais en même temps, si vous voyez, il est détruit en 5 minutes par un drone qui vaut 20 000 euros. Donc, si vous voulez, c'est pas très intelligent.
Je voyais un reportage là d'un drone qui avait fait des dégâts et ainsi de suite, et le présentateur disait ça vaut 11 000 euros.
Voilà, ça vaut 11 000 euros.
C'est
ce qui s'est passé pendant cette guerre, on s'est rendu compte d'un seul coup, ton frère a écrit beaucoup de papiers là-dessus d'ailleurs, on s'est rendu compte que ça changeait complètement la donne militaire, parce que non seulement les drones te flinguent, enfin ils flinguent les tanks, etc., ça c'est bien, mais en plus comme ils volent, il y en a partout, tu les vois pas. Il fait froid dans la neige, t'es quelque part en Ukraine, tu sors pour aller pisser, il te voit, il te suit, et ensuite il détruit l'endroit où tu es. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est... non seulement il tue, mais ils espionnent.
Alors, tu as Ellie qui te pose la question, Saliba, qui te pose la question suivante. J'ai une question un peu théorique. Comment fait-on et peut-on faire la différence entre une fuite devant la monnaie et une bulle classique? Je pense notamment au marché des actions américaines. J'ai lu quelqu'un défendre que les surévaluations folles de certaines valeurs pourraient être dues à la même logique qu'acheter Air Liquide et Schneider, au moins il vous aura quelque chose à la fin.
C'est pas complètement faux. Et alors là, il faut faire un petit pas en arrière. Vous avez, encore une fois, deux sortes de valeurs. Hein. Vous avez ce que j'appelle les valeurs schumpeteriennes, c'est-à-dire l'invention. Et quelque part, les États-Unis ont été à l'origine de la plupart des inventions dans les 50 dernières années. Donc, tu as un portefeuille, tu es un gérant normal, tu veux avoir une partie de ton portefeuille en valeur d'invention. À ce moment-là, tu es obligé d'aller aux États-Unis. Mais ce que j'aime avec Schneider et Air Liquide, etc., c'est que c'est pas des valeurs d'invention, c'est des valeurs, dans le fond, qui font très très bien un produit dont tout le monde a besoin, mais qui existe. Donc ils vont faire des améliorations, ils vont faire des petites inventions. Ça, c'est ce que j'appelle des valeurs de Ricardienne. Vous savez, le meilleur usage du capital. Et donc, ce que disent les gens, c'est « Ok, on est en train de m'entrer dans une période d'invention avec l'intelligence artificielle. Ce que je vais faire, c'est qu'il y en a 4 ou 5 qui sont là. Je vais toutes les acheter en partant du principe qu'il y en a une qui va, comme très souvent dans la technologie, qui va l'emporter complètement. Qui, tu sais, the winner takes all. Le gagnant prend tout.
The winner takes it all.
Voilà. Le winner takes all. Alors, ce qu'ils se disent, c'est d'accord, je vais perdre sur 4 sur 5, mais la cinquième, elle va peut-être multiplier par 10. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un pari statistique. Le danger, ce qu'on commence peut-être à voir apparaître, je ne sais pas, c'est que l'intelligence artificielle arrive et que personne gagne de l'argent avec, parce que c'est ça, aujourd'hui, il n'y a personne qui gagne de l'argent dans l'intelligence artificielle. Tout le monde a dépensé plein de pognon, et pour l'instant, tu as fourni du service gratuit avec ChatGPT ou j'en sais rien, c'est gratuit, et puis ceux qui payent, ils payent, mais ils payent pas grand-chose. Donc pour l'instant, personne n'a gagné d'argent. Tout le monde sait que c'est extrêmement important, mais personne n'a trouvé le modèle pour gagner du fric.
Voilà, il y a plein de gens s'y sont mis en disant que quand il y aura le breakthrough, ils veulent être sur le marché et qu'à ce moment-là, ça sera catching.
Voilà.
Mais effectivement, c'est un peu une course pour aller sur la Lune aussi.
C'est un peu une course pour l'instant. Ils investissent des centaines de milliards de dollars et si tu calcules
ça bouffe énormément d'énergie.
Ça bouffe un peu d'or et pour l'instant, la rentabilité n'apparaît pas très. Qui va, on voit bien qui va gagner dans le public, tu vois, c'est, mais on voit pas très bien la société cotée qui va vraiment en profiter, quoi. C'est exactement comme dans l'internet, si tu veux, c'est que bah il y a en l'an 2000, hein, il y avait Cisco qui était ceux qui faisaient les réseaux et Intel qui faisait les puces. Qui était à des prix absolument extravagants. Et puis, ben, c'est pas eux, tu vois, c'était pas eux qui ont gagné de l'argent, c'était d'autres gens qui ont gagné de l'argent, c'est Microsoft qui a gagné de l'argent, c'est. Puis oui. Ça a permis l'apparence, ça a permis l'émergence de Google, de.
Et d'Amazon.
L'Amazon, etc.
Qui ont fait de l'argent gros comme eux. Qui ont fait et de l'argent gros comme eux. Et ainsi de suite. Parce qu'il n'y aurait pas eu Internet, on n'aurait pas pu avoir Facebook et les développements des réseaux sociaux. Donc, en fait, c'est un peu les croissances comme on a vu au moment du Far West. C'est-à-dire, c'est pas simplement le chemin de fer qui va faire que, c'est aussi la création des villes qui aussi vont amener les pharmacies.
Ce que disaient les gens intelligents. C'est la vieille histoire du. Ce qui est une histoire vraie de la rue vers l'or en Californie, ceux qui ont gagné de l'argent, c'est ceux qui mettaient des magasins de bouffe.
Ceux qui vendaient des pioches.
Ceux qui vendaient des pioches et qui vendaient la bouffe aux mineurs, quoi. C'était. Donc, ouais, c'est que les marchés financiers, c'est un truc extraordinaire de jeu de billard. C'est-à-dire que vous pensez que c'est celui-là qui va monter, pas du tout. C'est un autre qui trouve une façon intelligente de gagner de l'argent sur celui-là. Donc, je comprends ce qu'ils font. Mais moi, ça se laisse en moi parce que ça devient très spéculatif.
Oui.
C'est-à-dire, je dois dire que quand tu regardes les grandes bulles historiques, tu te rends compte que bon, y a 90% des valeurs qui ont perdu 95% de leur valeur. Quoi. Donc, alors tu te dis, moi, je préfère
comprends ce qu'ils font.
Voilà, Air Liquide, Schneider, l'électricité. Très bien.
Ouais. C'est trop intelligent pour moi.
Voilà.
Il y avait un moment dans Downton Abbey que j'adore, c'est qu'il y a la grand-mère américaine qui vient en face de la grand-mère anglaise et puis elle importe plein de cocktails. Et on propose à, tu sais, Maggie Smith, donc qui fait la
grand-mère anglaise, elle est parfaite.
Douairière. Et on lui dit, est-ce que vous voulez un cocktail? Elle dit, no, that's much too exciting for me. Beaucoup trop excitant.
Quand j'étais à Londres. Il y avait un de mes clients qui m'a dit you're far too logical, Charles. Donc, ce que j'aime bien dans le côté anglais, c'est le côté irrationnel. C'est pour ça d'ailleurs que c'est des bons gérants, c'est qu'ils ont un côté, ils se méfient des gens intelligents. En Angleterre, c'est le seul pays au monde où il y a un dicton populaire qui dit
too smart for his own good.
Non, c'est l'expression, c'est il est trop intelligent au moins à moitié. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire,
oui.
C'est-à-dire que si vous êtes en Angleterre, que vous êtes invité par des gens dans la campagne, etc., si vous montrez que vous êtes intelligent.
C'est très vulgaire.
Vous n'êtes jamais réinvité. C'est vulgaire.
C'est très vulgaire.
C'est très vulgaire. Donc vous devez parler des fleurs, des oiseaux, des.
Et puis il est de bon ton d'avoir énormément de dérision sur soi-même.
Absolument.
Donc on dit toujours qu'on est nul, qu'on ne sait pas faire. Si on vous demande si vous savez jouer au tennis ou du tout, je me débrouille même si vous êtes négatif.
Hein. Exactement.
Mais on ne la ramène pas.
On ne la ramène pas. Exactement. C'est exactement ça.
Pour vous dire, comme ce n'est pas adapté à notre époque.
Hein, oui, c'est pour ça que les Français se font toujours.
Le monde garçon de bain.
Absolument. C'est un génie. Non, ils sont tous ADHD, ils sont tous...
Ah oui, ADHD, oui.
Tous les enfants nuls en classe, j'étais un enfant nul en classe, sont à haut potentiel intellectuel. Les mères disent toujours, oui, mon fils, son problème, il est dernier.
Alors que c'est juste des petits cons à qui il faut...
Mettre un grand coup de pied dans le derrière. Exactement.
Alors, on a eu beaucoup de questions cette semaine, de part et d'autre, parce que sur les internets, Idriss Aberkane, Richard Détente, qu'on embrasse, ont beaucoup parlé de Bitcoin et du fait que Trump allait faire tout un tas de choses avec Bitcoin. Donc, sache que c'est beaucoup remonté. J'ai une question relative à ça. Stratégie Trump-US. Richard Détente, dans une de ses dernières vidéos sur Grand Angle, suggère que Donald Trump va laisser couler le dollar pour basculer sur Bitcoin. Pour cela, il a fait passer une modification comptable de la valorisation des cryptos au cours réel dans les comptes des sociétés et non plus au plus bas des 12 derniers mois. Cela permet aussi aux entreprises de basculer leur trésorerie en BTC sans pénaliser leur bilan en maintenant une valorisation des actifs au plus bas alors qu'ils sont remontés. Il aurait aussi basculé personnellement 40% de sa fortune en crypto. Si j'ai bien compris, cela permettrait de purger les dettes en dollars en le laissant couler tout en maintenant compétitives les entreprises ayant basculé en BTC. Qu'en pensez-vous ?
Moi, j'en pense qu'un seul truc, c'est quiconque s'amuse à foutre en l'air la monnaie, ça lui retombe toujours sur la gueule.
Moi, je pense qu'il est dans un bras de fer avec sa banque centrale et qu'il laisse circuler ce genre d'informations pour dire à qui de droit, attention, si tu fais pas ce que je veux avec les taux, je vais faire le con avec Bitcoin.
Mais quelle que soit la raison, s'il veut faire baisser les taux, qu'un homme soi-disant un conservateur s'imagine qu'il sait à quel niveau les taux devraient être, ce que devrait faire un conservateur aux États-Unis, c'est simplement supprimer la Fed. Enlever la Fed et dire ça sert à rien, dire ce que disait Milton Friedman, j'ai fini de boire, il disait il faut remplacer la banque centrale par un ordinateur qui augmente la base monétaire, c'est-à-dire la monnaie de banque centrale, de 3% par an, et puis on le programme et on ferme à clé l'ordinateur et on va le jeter dans le Pacifique. C'est-à-dire que la quantité de monnaie qui monte de 3% par an, ça empêche la déflation des pressions, donc l'écroulement de la monnaie qui s'est passé dans les années 30, c'est une bonne chose. Mais ensuite, tu laisses le marché déterminer quels sont les taux courts pour chaque, quels sont les taux longs pour chaque.
Ça serait un suicide de laisser parce que bon.
Dollar qui s'écroule, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire que le gouvernement américain ait comme objectif de faire écrouler sa monnaie, ce qui semble être le cas, c'est de la folie pure et simple. C'est de la folie pure et simple. Et c'est ce que je dis, c'est-à-dire que vous êtes bien gentil, mais. Il y a quand même la quasi-totalité des compagnies d'assurance dans le monde, des compagnies des banques, des fonds de pension qui se retrouvent avec 20-30% de dollars dans leur compte. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, les retraites sont pas payées, quoi. C'est effrayant. Mmh. Non, mais l'idée, c'est une idée qui me tue, c'est qu'un conservateur s'imagine qu'en faisant baisser la valeur de la monnaie, il va augmenter la création de valeur. Regardez les Suisses. Ils ont la monnaie la plus forte du monde et ils ont des excédents des comptes courants de plus de 10% de leur PIB. C'est monstrueux. Donc ça veut dire foutez bien la paix à la monnaie, quoi.
Alors tu as une question qui était parce que cette question t'a été posée sous différentes formes et donc un autre internaute qui est intervenu sur une autre question pose donc la question qui est la suivante. Un État peut-il détruire sa monnaie pour rembourser sa dette sans se détruire lui-même ?
C'est une très bonne façon de le dire. La réponse est non. Il se détruit automatiquement.
C'est le scorpion et la grenouille.
C'est le scorpion et
la grenouille. Les deux vont couler.
Les deux vont couler. Donc, l'idée que on peut... La monnaie, c'est une question de confiance. C'est-à-dire que tu t'en sers alors que ça ne coûte rien à produire. Un billet de 50 euros vaut plus qu'un billet de 10 euros... alors que c'est le même coût de production pour les deux. Et donc, si les gens acceptent de donner leur travail pour 50 euros, j'en sais rien, c'est qu'ils ont confiance que les autres vont l'accepter. Mais si d'un seul coup, la défiance se met, tu te retrouves dans Weimar ou des choses comme ça, ou à ce moment-là, dans la mesure du possible, tu ne vends plus rien. Et l'économie s'écroule. Tu peux plus, dès le moment où la monnaie s'écroule, tu peux plus faire rentrer le temps dans le calcul économique. Puisque tu dis, l'outil que j'utilise, il se dégrade tellement vite que les gains que j'espère faire, c'est pas vrai. Donc, foutre en l'air la monnaie, c'est foutre en l'air toute la sphère financière.
Et puis par ailleurs, t'imagines le drame psychologique pour la population.
Bien évidemment.
Tu peux pas. Enfin, je veux dire, les électeurs de Trump, qui l'ont élu, l'a porté dans ce deuxième mandat, l'ont fait pour des questions relatives à l'inflation, parce qu'eux-mêmes étaient des ménages en dessous de 40K, voilà, et qui disaient on n'arrive pas à s'en sortir, le prix des œufs a augmenté, le prix de la farine, ainsi de suite. Et t'arrives en leur donnant comme réponse on va foutre en l'air votre dollar, Et
on va le remplacer par un beacon auquel personne ne comprend rien.
Parce que je t'annonce que tu vas en Caroline du Sud, à Myrtle Beach, les gens vont te regarder gros comme ça en te disant « Vous êtes gentil avec votre bitcoin, mais moi j'ai déjà du mal à, avec les billets de 5. » Donc, non, mais
C'est exactement l'idée de Law, tu sais, dans le financier écossais, etc. C'est qu'il a pensé, c'était le début, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de confusion totale dans l'esprit des gens, la création de valeur et la création de monnaie. Si je crée, c'est ce que disait, je sais plus qui l'a dit, c'était très malin, c'était de dire, vous êtes en train de me dire que si je donne une agrégation de philosophie à tous les gars qui passent le bac,
j'ai créé de l'intelligence.
Vous avez augmenté l'intelligence du peuple. Ben, c'est pas vrai du tout. Là, c'est pas en augmentant le nombre de
mentions au bac, qu'ils ont fait.
Oui, ce qu'on fait, que vous allez avoir un peuple plus intelligent et plus travailleur, etc. Donc, non, c'est raisonner comme si de la monnaie avait une valeur intrinsèque.
Ce n'est pas le cas. Alors, ouvrons un petit peu mais dans la logique de l'université de l'épargne. Bonjour Charles, pouvez-vous, c'est Jean-Marie qui te pose la question, pourriez-vous nous faire un point sur la situation du yen à la suite de la démission du Premier ministre? Quelle perspective? Devrions-nous alléger la position sur un actif qui tarde à décoller?
Oui, qui tarde à décoller.
Oui, il nous embête.
Il nous embête, ça fait un petit moment qu'il nous rase, mais en même temps c'est toujours pareil, c'est la théorie de la parité des pouvoirs d'achat, les monnaies retournent toujours à la pouvoir d'achat, mais j'ai toujours dit qu'on ne sait jamais quand ça se passe, et quand ça se passe très brutalement. Donc qu'est-ce qui se passe sur le yen? Le Premier ministre a démissionné, il va y avoir des élections à l'intérieur du Parti libéral au Japon, qui vont amener un nouveau gars, et il semble que celui qui tienne la corde, c'est un gars qui veut mener une politique budgétaire plus expansionniste, et avec probablement une politique monétaire un peu plus restrictive. Là, on avait une politique monétaire expansionniste et un budget qui était sous contrôle. Donc ils vont un petit peu filer des trucs aux gens. Si c'est le cas, il est probable que les taux vont monter. Le vrai problème, c'est aujourd'hui, c'est que l'inflation est à 3 au Japon, ce qui est considérable, et les taux sont à 1. Donc, 100 ou 1,5. Alors, donc, ce que dit le secrétaire d'État au Trésor américain, dit, ça vous fait rien de mettre vos taux à 3 ou à 3,5 au minimum parce que vous commencez à nous broter, quoi.
Oui, bah oui.
Donc,
comment ça vous
alors, je continue à regarder le yen, mais comme le yen n'est pas monté, pas baissé par rapport au yuan, je me dis, un de ces quatre, s'il ne se passe vraiment jamais rien sur le yen, on basculera peut-être sur le yuan en cash.
Sur le renminbi en cash.
Sur le cash, parce qu'au moins, là, j'ai une politique monétaire que je comprends, quoi.
Oui, mais parce que
ça coûtera rien aux gens, parce que c'est la même chose, ça aurait fait la même chose.
Alors, et ça sera la dernière question, je pense, parce que oui, on est dans les temps. Bonjour et merci pour votre fabuleux travail de vulgarisation de la finance.
Relis-moi ça, s'il te plaît.
Bonjour et merci pour votre fabuleux travail de vulgarisation de la finance.
Enfin, quelqu'un qui reconnaît mes mérites.
Une question. Nous sommes actuellement situés dans le cadran... Alors, le cadran de Brown...
Les quatre cadrans, là, oui, voilà. Boum.
Dans le cadran en haut à droite, c'est-à-dire inflation et croissance.
Oui, c'est pour les États-Unis, c'est vrai. Pour la France, ça se discute.
Voilà. Du fait de la fin de l'expansion de la masse monétaire M2 en cours, Global M2, peut-on s'attendre pour la prochaine évolution à une situation inflation et baisse de croissance? Cadran en haut à gauche.
Ça, c'est le pire.
Dans ce cas... Comme nous avons en actifs communs sur ces deux cadrans or, matières premières, obligations pays émergents et obligations protégées contre inflation, n'est-il pas judicieux d'alléger progressivement la poche actions et aux cryptos, quitte à prendre un peu d'avance sur le changement de cycle? Quelle est votre prospective et voit-elle une évolution vers la stagflation?
Alors, c'est une très bonne question, mais c'est quelqu'un qui a bien bossé, qui comprend bien ce qu'on essaye de faire. À ça, je réponds... Alléger les actions, oui, mais la Chine est en train de rentrer et est rentrée dans le cadran en bas à droite. C'est bien pour ça qu'on a nos actions en Chine. C'est donc, je dis les actions, je les allégerais si j'étais aux États-Unis ou en France.
Mais on a nos actions en bas à droite en Chine.
On a nos actions en bas à droite en Chine. Et en ce qui concerne l'or, la réponse est... si jamais, en effet, on passe en haut à gauche, mais ce qui suppose une hausse des taux courts très forte, qu'on n'a pas. Tant que ce qu'on essaie de dire, nous, c'est que dans le fond, tant que l'or fait mieux que les taux courts, que les obligations à taux court à un an ou trois ans sur les 12 derniers mois, ils continuent à essayer de foutre en l'air la monnaie. C'est simplement si les taux deviennent supérieurs à la rentabilité de l'or qu'on peut se dire que, or pour l'instant, donc, à mon avis, c'est juste comme analyse, mais c'est un peu tôt. C'est juste, mais j'irai pas encore. Donc mes actions, j'y touche pas parce qu'elles sont en Chine et que tout va bien, que le marché monte d'ailleurs, dans la différence générale. L'or, il faudra peut-être en sortir, mais ça suppose qu'il y a un changement de politique monétaire aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas.
Faut en sortir. En même temps, dans notre portefeuille de bras, on en est censé avoir de l'or tout le temps.
Question, c'est quel actif ne faut-il pas avoir aujourd'hui?
Ah oui.
La question, c'est celle-là, puisqu'on en élimine toujours un. Pour l'instant,
De toute façon, nous, on n'a plus d'obligation d'État.
On n'a plus d'obligation d'État. Si cette personne a raison, on va ensuite passer d'en haut à gauche en bas à gauche. Et à ce moment-là, il faut avoir des obligations longues. Mais je crois que c'est trop tôt.
Moi, j'avais la sensation dans tes papiers de rentrée qu'on était en haut à gauche.
Non, en haut à gauche, non, ça c'est la crise de liquidité. T'es en haut à gauche, on est en haut à droite où il y a une croissance et elle est inflationniste.
Je croyais qu'on était en baisse, plus de croissance.
Ça c'est en France.
Oui, c'est en France. Inflation qui va reprendre. Plus de croissance et inflation qui va reprendre.
En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'en France et en Allemagne, probablement, on est dans la partie gauche.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas de croissance. C'est pour ça que je vais aller chercher des sociétés en France, par exemple, qui ont de la croissance ailleurs.
C'est la seule façon d'en avoir.
Donc, quelque part, le portefeuille est bâti pour dire, le problème, c'est que l'Europe, il n'y a plus de croissance. Mais qu'il y a des sociétés européennes qui peuvent en avoir, et vous pouvez avoir aussi des...
Et c'est ce que tu expliques dans ton livre qui va paraître aussi, c'est que malgré tout, ça c'est un immense avantage de notre monde aujourd'hui, c'est qu'on a la possibilité, en habitant ici, d'aller chercher la croissance là-bas. Et ça, c'était pas le cas il y a 40 ans.
Ben oui, moi quand j'ai commencé dans ce métier il y a bien longtemps, si vous voulez, il faut pas oublier que... la Banque de Suez, quand j'y étais... Le seul pays où on pouvait investir, on investissait dans la Bourse de Paris, bon, très bien. Et puis, parfois, il y avait des gars qui étaient assez fous pour mettre un peu d'argent aux États-Unis, tu vois. C'était ça, la diversification internationale. Puis, dans les années 70, on avait apparaître le Japon comme deuxième truc, qui marchait bien, d'ailleurs. Ça fonctionnait pendant longtemps. Et puis, on avait apparaître les pays émergents. Et aujourd'hui, un particulier, à partir de son ordinateur, peut investir à peu près dans toutes les bourses du monde. Vous vous rendez pas compte le changement civilisationnel que c'est, quoi. C'est absolument monstrueux. Donc, votre épargne n'a pas vocation à rester dans votre pays, soit que le cycle soit pas bon, ce qui est le cas en France, soit que la politique soit nulle, ce qui est le cas en France. Et vous avez le devoir de protéger votre épargne contre
Les spoliations étatiques.
Les spoliations étatiques, ce qui était extrêmement difficile à faire dans le temps. Tu te faisais avoir 9 fois sur 10, quoi.
Est-ce que tu crois, pour parler de spoliation étatique, qu'il serait possible que l'État français décide de faire un emprunt volontaire obligatoire?
C'est pas impossible. Et qu'il le fasse souscrire par tout le cash qu'il y a dans les comptes des Français.
Oui. On avait eu au moment de la grande sécheresse.
C'est ça, Monsieur Barr, oui, qui l'avait remboursé.
Parce que il va arriver quand même à un moment où, en termes de liquidité,
si les étrangers souscrivent plus, il faudra faire ça. Quand tu réfléchis à la façon dont l'Europe fonctionne et tout, et que tu regardes, c'est là, il y a encore une épargne assez abondante, et puis. Tu peux pas t'empêcher de penser qu'à un moment ou à un autre, l'Europe va mettre des contrôles d'échange. Je sais pas comment ils feront, parce que c'est complètement...
Comment tu peux aujourd'hui mettre un contrôle d'échange avec des cartes bleues et une dématérialisation? Ils peuvent essayer d'avoir un contrôle sur les liquidités et la masse monétaire, ça oui.
Qu'est-ce que tu as dans ton compte?
Empêcher le black et piquer ce qu'il y a dans le compte, oui, mais encore quand même... tu te rends compte, les livrets A, ce genre de choses, ça ils peuvent réquisitionner, mais ils peuvent pas réquisitionner les comptes courants, quand bien
non.
même c'est possible.
Ce qu'ils peuvent faire, c'est tout ce qui est au-dessus de 100 000 souscrire à l'obligation.
Oui, mais c'est ce qu'ils avaient fait à l'époque dans les emprunts bars. C'était, ils avaient regardé les ménages qui étaient au-dessus. Mais bon, si tu regardes que déjà, il n'y a que 50% des ménages français qui payent l'impôt sur le revenu, ça voudrait dire que c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on demanderait cet effort supplémentaire aux... Et par ailleurs... Non, mais aux riches. Mais je te rappelle qu'avec la charge dans les ménages aujourd'hui de l'immobilier, beaucoup de gens ont des emprunts tous les mois à rembourser sur leur revenu. Donc cette captation, elle fait rigoler parce que en vrai, la plupart du temps, c'est comme quand ils disent en France, on épargne, il y a beaucoup d'épargne et il y a deux fois le montant de la dette possible. Ouais. 6 000 milliards. Mais elle est utilisée. Hier, j'entendais Sébastien Chenu dire il faut ne pas laisser l'épargne qui dorme, l'épargne ne doit pas dormir, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que vous imaginez au RN ? Bien évidemment que l'épargne ne dort pas, les gens ne sont pas plus cons que mal habillés.
Non, mais c'est pas ça, c'est si tu laisses de l'épargne dormir à ta banque, la banque, elle va prendre ton cash et l'investir.
Oui, c'est bien, c'est pour ça que l'épargne, part ne dort.
Nulle part ne dort, c'est-à-dire que la rentabilité de l'épargne va plutôt à la banque.
Qu'au particulier, à l'instant
mais
T.
L'épargne, elle va prendre des 3000 euros que vous avez dans votre compte, la banque, elle va les prendre et elle va les mettre en obligation d'État ou j'en sais rien. Donc il est déjà investi cet argent. C'est-à-dire que la plupart de ces gars-là ne comprennent pas la notion de comptabilité en partie double, qui a quand même été inventée au XIIe siècle. Mais je crois que la comptabilité publique française est toujours faite en partie simple, c'est-à-dire qu'ils ont toujours pas, ça fait jamais que 8 siècles, qu'ils sont pas passés en partie double. Quoi.
Et Jean-Philippe Tanguy nous a expliqué hier chez France Inter que il était normal d'avoir un impôt sur les plus aisés.
Sur les ?
Les plus aisés. Donc il faut rétablir l'ISF.
Mon Dieu. Que veux-tu dire ? S'imaginer, ce que disait Churchill, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'un pays qui soit enrichi en augmentant la taxation.
Et moi, ma théorie que je vous soumets, c'est que je pense qu'il y a désormais deux familles au RN, c'est qu'il y a une famille plus libérale, on va dire, qui est celle de Bardella, qu'on a vue au MEDEF, et il y a une partie très social-démocrate de gauche.
Et surtout, qui refait l'erreur constante des Français, c'est-à-dire le problème de la technocratie française, c'est pas qu'ils se trompent, c'est qu'ils avaient des mauvais technocrates. Si moi, qui suis un bon technocrate, je suis au pouvoir, je prendrai les bonnes mesures. Oui, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est la technocratie qui tue. C'est pas le bon ou le mauvais technocrate. Il n'y a pas de bon technocrate.
Oui, mais si tu veux, c'est toujours pareil. Je ne vois pas pourquoi Sébastien Chenu, qui ne connaît pas à un instant T quelles sont les différentes taux TVA en France, ou Jean-Philippe Tanguy, qui a travaillé quoi un an et demi chez Alstom, saurait véritablement comment flécher l'épargne et comment refaire une relance gaullienne dans un cycle économique qui, par ailleurs, on l'a vu dans les cycles d'Aftalion, n'est plus à une époque de conquête comme on en pouvait avoir d'après-guerre, c'est-à-dire à un moment où il fallait bâtir des infrastructures. Mais qu'est-ce qu'on va bâtir comme infrastructure aujourd'hui ? On va faire des autoroutes parallèles aux autoroutes qu'on a déjà ? On va mettre des stades dans des villes qui n'en ont pas besoin, comme ils ont fait à Ramatuelle, là où je sais plus, enfin ton copain qui était à Saint-Rémy, oui. Où ils ont fait une piscine alors qu'ils n'en ont pas besoin parce que simplement ils avaient les fonds. Enfin, au bout d'un moment, on n'est pas obligé d'avoir des référentiels qui datent malgré tout d'il y a 50 ans et qui étaient dans une période de construction qui n'est plus la nôtre. Aujourd'hui, la période, si vous voulez avoir une rentabilité du capital investi, comme ce dont on parlait tout à l'heure, c'est connaître la rentabilité des choses. On pourrait avoir encore une rentabilité, mais c'est certainement pas sur des boutons de culotte qui, de toute façon, seront toujours mieux à faire en Chine parce qu'on a... ils auront toujours un coût
Chinois,
du travail.
C'est trop cher en Chine, donc ils l'ont fait faire au Vietnam ou ils le font faire au Myanmar.
Donc, nous, on aurait une valeur ajoutée qui est sur des produits très spécifiques avec une immense valeur ajoutée de la connaissance, une économie de la connaissance, mais on ne peut plus faire un développement économique sur un travail manuel. On n'a pas assez de prospective.
Surtout que le travail manuel en question, il est beaucoup trop cher.
Il est beaucoup trop cher. C'est bien pour ça que sur une usine de boutons de culotte, ne vous inquiétez pas qu'au Miraman, ça sera toujours moins cher que de le faire.
Donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect de l'augmentation du poids de l'État dans l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à près de 60% du poids de l'État dans l'économie. Ça veut dire que aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas la création de richesse, c'est que la redistribution de la richesse qui a été créée par le secteur privé atteint maintenant des niveaux où ça ne paye plus pour celui qui travaille et qui crée de travailler et de créer en France. Donc le problème, c'est que on a aujourd'hui un système de redistribution, mais qui tue le système de création de valeur. Et s'il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas grand-chose à redistribuer.
En fait, on arrive toujours au même problème, c'est-à-dire que ces gens-là confondent la rentabilité du capital investi et la croissance des profits. Donc, ils regardent les dividendes donnés par les grandes sociétés ou les valorisations de LVMH, Air Liquide et ainsi de suite, et ils disent, regardez cette croissance des profits. Tu dis, mais ça n'a rien à voir avec la rentabilité du capital investi sur le territoire.
En France. En France.
En France, parce que cette croissance des profits, elle a été faite à l'étranger, les gens.
Voilà.
Donc,
voilà.
Qu'elle soit rapatriée en France et que vous ayez des sociétés qui soient hyper valorisées, c'est pas pour ça que la richesse a été créée là-bas. Et la rentabilité du capital investi en France, elle est pourrie.
Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas d'usine en France.
Voilà.
C'est parce que la rentabilité du capital investi dans les usines n'existe pas.
Voilà. Et donc, ça ne sert à rien d'aller expliquer aux gens que demain, on va mettre des usines partout et qu'on aurait une croissance des profits comme ils ont là-bas. Mais ils ont une croissance des profits parce que LVMH fait tous ses profits là-bas. La rentabilité ici, elle est mauvaise. Elle est mauvaise pourquoi ? Parce qu'on y revient, le coût du travail, les 35 heures, une charge salariale trop lourde, une charge juridique beaucoup trop lourde, et le fait que, voilà, on peut pas sortir notre épingle du jeu. Et l'Europe qui rajoute des normes et l'incapacité d'avoir des sociétés qui fluides.
Le coût de l'énergie.
Le coût de l'énergie. Comment vous voulez ?
Non, c'est pas possible. Donc, ces braves gens... On l'a bien vu au moment, il y a eu toute une série, l'ancien communiste là qui était le président de la commission de finances à l'Assemblée
nationale.
Coquerel, il confond chiffre d'affaires, bénéfices et revenus.
Personnalité morale et personnalité physique. Au bout d'un moment, avec leur tag Zuckman, tu leur dis, je suis désolé, il y a une telle chose que l'égalité de tous devant la loi et un instant T, tu ne peux pas imposer quelqu'un sur un revenu. Ça a été jugé par le Conseil constitutionnel, mais un nombre incalculable de fois. Donc, ils ne se sont même pas posé la question. Donc là, ils disent, on va potentiellement taxer une personne physique sur les revenus qu'elle pourrait toucher dans le futur quand elle descendra possiblement des avoirs depuis la personne morale. Et donc, on ne peut pas taxer quelqu'un, on ne peut pas imposer quelqu'un. Ça a été jugé par le Conseil constitutionnel déjà sur un revenu futur. Tu te rends compte de ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on pourrait même, dans ce cas-là, dire, monsieur, vous détenez des actions Air Liquide. Je vais prévoir que Air Liquide va vous donner X dividendes et je vais vous taxer sur ça pour le futur. Mais tu te rends compte de ce que ça ouvre intellectuellement comme perspective ?
Il m'avait taxé sur
la valeur locative que tu aurais pu tirer d'un bien, quand bien même il savait que tu ne l'avais pas loué, mais que tu aurais pu tirer de ce bien-là.
J'ai été taxé là-dessus, oui.
Parce qu'il n'y avait pas d'accord fiscal entre la France et Hong Kong.
Voilà, donc on en revient toujours à la même chose, si vous voulez, c'est qu'un système fiscal doit être simple pour être compris par tout le monde et s'appliquer à tout le monde. Donc ce qu'il faut faire en France, c'est supprimer les 370 impôts qui existent, les remplacer par un impôt sur le revenu de 25% que tout le monde paye.
Mais surtout, et ça je voudrais le dire en tant que libéral, il y a une chose très importante, c'est réfléchir l'équité de l'impôt. Et quand on pense à l'équité de l'impôt, parce que cette histoire d'impôt sur le revenu, ainsi de suite, ça a été mis en place progressivement sous le Second Empire, je crois. Mais avant ça, si tu veux, on avait décidé de mettre en commun des biens et on s'est dit, voilà, on va tous faire une petite quête et puis on va faire qui des écoles, qui des routes, qui des hôpitaux. Mais à aucun moment, on a décidé que l'impôt devait être punitif sur les riches. Enfin, c'est quoi cette nouvelle mode ? Alors maintenant, vous gagnez trop d'argent, on vous punit. Et on va prendre vos sous. Mais c'est pas ça l'impôt. L'impôt, non. C'est une quête. Une quête proportionnelle. On a décidé de le faire proportionnel.
Et qui devrait être votée par les citoyens. Mais là, on va terminer là-dessus. Mais je reviens à la parabole des talents. Tu sais, la parabole des talents dans l'évangile dont j'ai parlé 25 fois. Et je vais vous dire ce qu'on sait. Il y a le bon serviteur à qui on a donné 4 talents, qui en 4 et 4, 8. Puis il y a le serviteur qui est un peu moins doué, à qui on a donné 2 talents, qui en a 2 et 2. Donc il double aussi. Et le dernier, il enterre son talent. Et celui que le Christ condamne, c'est le dernier parce qu'il enterre son talent. Et ben, ce qu'on est en train de faire, c'est aujourd'hui de piquer de l'argent aux 4 et aux 2 pour le donner au 1 qui enterre son talent. C'est ça qu'on fait. Et on s'étonne qu'il n'y ait plus de croissance. Ben voilà. Le Christ a condamné de façon formelle la redistribution dans les évangiles. Et ben ça fait rien. On prétend que les évangiles sont socialistes. Ils sont tous sauf.
Par ailleurs, l'ouvrier de la dernière heure.
Oui.
Qui a dit Qui a dit que ça devait être juste ce monde ?
Personne.
Tu peux avoir un ouvrier de la dernière heure qui arrive.
Qui est payé comme les autres.
Et qui est payé comme les autres, quand bien même il est arrivé à la dernière heure. Non. Parce qu'il n'y a pas de justice dans ce monde. Et parce que.
Parce qu'on en avait besoin. Parce qu'il allait y avoir un orage et que donc le maître a décidé de payer ce gars-là comme les autres. Et parce que le maître dit, qui es-tu pour penser que tu peux m'imposer de cesser de disposer librement de mon bien ? C'est-à-dire, c'est une affirmation totale du droit de propriété. Celui qui a le capital et qui prend le risque en investissant, c'est lui qui est responsable et personne n'a le droit de lui donner les instructions.
Et pourquoi les hommes politiques de cette génération s'imaginent que du haut de leur grand savoir de rien, ils auraient le droit et le devoir de flécher l'économie ou de faire quoi que ce soit ?
Et de flécher l'égalité sociale. Donc
c'est un vrai problème. Mais laisser les gens... Libre de faire et de créer surtout.
De créer.
Arrêtez de structurer avec vos pensées.
C'est comme l'art officiel. Quoi.
Oui, c'est ça.
C'est ça, il y a un art officiel de Staline, ça vaut rien. Et puis aujourd'hui, on a une économie officielle qui nous amène à la
pénurie. Laissez les gens dessiner sur les tables.
Et voilà.
Voilà. Bon, bah, écoutez, on est ravis d'avoir fait cette session de questions-réponses. On prendra vos questions en dessous. Et je pense que la semaine prochaine, je vais vous parler de la nation, mais je vais voir parce que j'ai acheté un livre d'un historien qui s'appelle Éric Anceau. Et j'avais envie de refaire un sujet peut-être un peu plus
sociologique.
Ouais. Et donc je pensais le lire et peut-être le chroniquer avec toi la semaine prochaine.
Ça serait très bien parce que ce que disait...
Sauf s'il se passe un drame économique qu'on doit adresser.
Ce que disait Jean-Paul II, qui était quand même essentiel, c'est que la démocratie ne pouvait exister que dans une nation. Et on est en train de le voir partout en Europe. On a essayé de nous créer une espèce de substitut de démocratie à Bruxelles qui fonctionne pas. Et aujourd'hui, les peuples clament qu'ils veulent être gérés par... des gens de chez eux qui s'intéressent à eux.
Voilà, donc j'ai lu l'introduction, c'était assez intéressant parce qu'il revenait sur Renan, sur les différentes définitions qu'il peut y avoir d'une nation, combien la nation et le peuple ont parfois divergé, combien parfois des identités de peuples ont pu être conservées, on l'a vu en Pologne.
C'est un très bon sujet, la nation,
je pense qu'il est un peu à l'ordre du jour avec ce qu'on a vu dans les manifestations en Angleterre et ainsi de suite.
Absolument.
Donc voilà, je pense que ça s'inscrirait dans le temps.
La patrie, c'est l'endroit où votre père est mort.
Voilà.
Est
donc,
enterré.
On fera ça la semaine prochaine. On vous dit donc à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.